Bonjour, comment allez-vous ? J'aime les expressions qui en disent plus long qu'un long discours. En connaissez-vous ? Les Brésiliens, pardon si vous êtes à table, cette expression est dégoûtante, mais tellement parlante. Pour évoquer ceux qui font des ragots et sèment la discorde, ils disent « mettre la crotte dans le ventilateur ». Les Anglo-Saxons ne disent pas comme un coq en pâte, mais comme une punaise dans un tapis pour évoquer quelqu'un qui se prélasse. Et celle-ci, un peu d'actualité hélas, que j'ai entendue en Sologne à propos d'un homme tout confus de s'être lâché. Son hôte, pour le mettre à l'aise, lui a dit « mieux vaut péter en société que mourir tout seul ». C'est tellement vrai. Une dernière, convenable cette fois, pour parler de quelque chose qui n'est pas efficace, autant creuser un trou dans l'eau.
Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir comment on fabrique les ponts comme il y a de l'eau en dessous. Merci.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai presque 6 ans. Je voudrais savoir comment on construit les ponts dans la mer. Merci.
Comment on construit un pont dans la mer, un pont quand il y a de l'eau, Michel Virlogeux.
Ah, alors que ce soit une rivière ou la mer, c'est pareil, le problème c'est l'eau. Comment on peut aller mettre les pieds dans l'eau ? Alors il y a plusieurs façons, et je vais commencer par la méthode la plus claire d'une certaine façon. Alors bien sûr, pour pouvoir construire en mer, il faut des moyens nautiques, on a des barges, on a des bateaux, alors ça c'est évident. Alors ce qu'il faut, c'est pouvoir construire les fondations et la pile. Une fois qu'on a construit la pile, évidemment, on construit le tablier, c'est-à-dire là où passent les voitures, ce qui porte les charges, c'est pas un problème, on a les techniques pour ça. Alors, pour pouvoir construire les fondations, il faut aller descendre au fond de l'eau. Et pour ça, on va faire une enceinte fermée. Alors, le plus simple, c'est de faire des enceintes circulaires, parce que ce qui est circulaire va bien résister à la pression de l'eau. Et comme ça, on va construire ce qu'on appelle un batardeau. C'est-à-dire qu'on va venir battre ce qu'on appelle des pales blanches. Alors les pales planches, c'est des espèces de grandes feuilles plates en acier, un petit peu ondulées pour qu'elles aient de la résistance, qui sont équipées d'espèces de serrures sur les deux côtés. On utilise pour les battre ce qu'on appelle un mouton diesel, hein, c'est une espèce de une grande masse qui se déplace le long d'un rail vertical. Alors cette masse, elle est très lourde, elle descend, elle tape sur la pale planche, et puis là, elle rebondit, et ça fait exploser le gasoil dans le piston du mouton diesel, et le piston, du coup, avec l'explosion, il remonte, et puis redescend, et puis remonte, et puis redescend, et donc il va nous battre la pale planche jusqu'à ce qu'on coupe le courant. Et puis après, on prend une deuxième pale planche, on l'enfile dans la serrure sur le côté de la première, et tac, on recommence.
On
et puis on recommence, et puis on recommence. Ceci dit, à l'intérieur de ce batardeau de pale planche, on va raidir le système par des profilés qu'on va mettre à l'intérieur et qu'on va souder sur les pales planches.
On soude dans l'eau ?
On peut souder sous l'eau, hein, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, c'est spécialisé, mais enfin, il faut souder dans l'eau. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on a une enceinte qui est à peu près étanche. Alors, en général, on va à ce moment-là bétonner au fond. On va mettre ce qu'on appelle un bouchon de béton qu'on va couler sous l'eau. Et puis, à ce moment-là, vous avez votre batardeau, vous avez votre bouchon. Et bien, on va enlever l'eau et puis on va descendre travailler. Donc ça, c'est la première technique. Alors, il y a une deuxième technique qui consiste à fabriquer un caisson à terre. On fabrique le caisson dans ce qu'on appelle une forme de radou. Les Anglais appellent ça des dry docks, c'est-à-dire une espèce de chantier sous l'eau. On ferme les portes, on vide la forme de radou. À l'intérieur, on va construire une espèce de caisson avec un fond. Et puis quand on aura construit notre caisson, on ouvre les portes, l'eau rentre et le caisson se met à flotter. Et là, on va prendre des remorqueurs et on va aller le mettre en place. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour les pylônes du pont Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Les caissons de fondation des pylônes de levage du tablier, puisque c'est un pont levant, ont été fabriqués dans la forme de radou de bassin.
Bonjour madame, j'ai bientôt 7 ans, je m'appelle Hugo et je voudrais savoir si on peut toucher un arc-en-ciel et se rendre à son pied. Au revoir, madame.
J'ai proposé ta question à Emmanuel Bocry, prévisionniste à Météo France. Alors, le pied de l'arc-en-ciel.
Bonjour Hugo. Alors malheureusement, je vais te décevoir. Tu ne pourras jamais atteindre l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène optique. C'est de la lumière qui traverse le soleil, qui va taper dans les gouttelettes d'eau de pluie qui est en train de tomber et qui va nous revenir dans notre œil en décomposant la lumière. Et si on regarde bien, on va trouver les fameuses 7 couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le le bleu, l'indigo et le violet. En réalité, c'est un peu une tricherie. Ça, c'est Newton qui avait indiqué ces 7 couleurs. Il y en a beaucoup plus, il y a à peu près 150 couleurs.
Ah, 150
ouais. Elles sont complètement en décalé. Alors Hugo, je t'ai un peu déçu, mais en même temps, je vais te dire que tu peux fabriquer toi-même ton arc-en-ciel. Alors, il faut que tu sois avec tes parents. Tu fais la chose suivante, surtout en été. Tu tournes le dos au soleil, tu prends un tuyau d'arrosage, tu le pinces et tu envoies le jet d'eau devant toi. Ça va faire une pluie. Et si tu regardes bien, tu vas voir apparaître le fameux arc-en-ciel. Et si un jour tu as la chance de voir un arc-en-ciel complet, c'est un petit peu compliqué, mais quelquefois, on voit le demi-cercle avec les fameuses 7 couleurs, en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais si on regarde bien, on se rend compte qu'au-dessus de ce cercle, il y a un autre cercle, les couleurs sont inversées. Et si on a encore beaucoup plus de chance, c'est plus difficile, entre les deux arcs-en-ciel, on voit qu'il y a une zone sombre, c'est ce qu'on appelle la bande sombre d'Alexandre, c'est un nom qu'on lui a donné. Et si on a encore plus de chance, en dessous du premier arc-en-ciel, on va voir des bandes vertes et violacées s'alterner les unes derrière les autres. C'est très rare de les voir, mais on peut les voir de temps en temps. En général, on voit le principal arc-en-ciel qui va du rouge à l'extérieur vers le violet à l'intérieur du cercle. Et si on a un peu de chance, on voit le même arc-en-ciel, mais inversé au-dessus. Donc malheureusement pour Hugo, il ne pourra pas aller au pied de l'arc-en-ciel.
Sauf s'il se le fabrique, ça sera à ses pieds finalement.
Voilà, ça sera à ses pieds.
Emmanuel Beaucry, Flora se demande pourquoi elle n'en a jamais vu, elle, deux arcs-en-ciel avec tout ce que vous venez de raconter, parce que c'est rare.
En réalité, il faut avoir un très beau rideau de pluie bien uniforme. Et là, quand on a un grand rideau de pluie bien uniforme, en général, on voit apparaître les deux arcs-en-ciel. Mais pour le voir bien, il faut voir un rideau de pluie, tourner le dos au soleil. Si vous tournez pas le dos au soleil, Noël, ça sera un peu de travers, on verra pas très bien. Il faut tourner le dos au soleil et là, on verra bien les deux arcs-en-ciel apparaître. Si on prend le temps, si on voit en général le premier arc-en-ciel bien net, on va voir le deuxième apparaître au-dessus un petit peu moins puissant. C'est normal parce qu'on voit un peu mieux. Et par contre, les bandes en dessous, à l'intérieur du premier arc-en-ciel, le vert et le violacé, c'est beaucoup plus difficile. On les devine un petit peu, ça dépend, c'est un peu le hasard.
Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir si les oiseaux peuvent dormir en volant. Merci beaucoup, au revoir.
Guilhem Le Saffre.
Alors, les oiseaux, oui, peuvent dormir en volant.
Ah bon?
Pas tous. Et puis, ce n'est pas un sommeil profond. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont un petit oreiller amovible sur lequel ils s'installent en tirant la couverture. Mais ils sont capables, notamment les martinets noirs, hein, qui vivent au-dessus de nos villes et qui, le soir, montent jusqu'à des hauteurs impressionnantes, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils ne redescendaient pas. Donc, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Que faisaient-ils une fois qu'ils étaient là-haut? On a eu la certitude qu'ils dormaient en volant à partir du milieu du XXe siècle, lorsqu'on les a suivis en avion, tout simplement, pour voir ce qu'ils fabriquaient là-haut. Et ce n'est que plus tard qu'on a compris comment ça se passait dans leur tête en réalité. Et la réponse est très simple et concerne aussi ce qui se passe avec les dauphins. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a deux hémisphères, deux moitiés, et par conséquent, l'une peut dormir chez ces animaux-là alors que l'autre est en éveil. Ce qui permet aux martinets comme aux dauphins, je schématise naturellement, de rester en éveil tout en se reposant.
Oui, mais le dauphin, je sais pas, mais le martinet, pour pas tomber, il faut quand même qu'il continue à voler. Peut-être que le dauphin, il arrête de nager, je sais pas.
Alors, le martinet, il va atteindre des hauteurs impressionnantes. Hein, il peut voler à 1000 mètres, par exemple.
À 1000 mètres, voilà. Un kilomètre?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et il est capable, à ce moment-là, de se laisser dériver dans les courants aériens en se contentant d'étendre les ailes. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est à se laisser porter. On peut dire pratiquement que c'est sans risque, parce que le risque de collision dans un ciel nocturne gigantesque est extrêmement infime, hein, tout à fait infime. Donc c'est un procédé qui donne toute satisfaction. Sinon l'évolution y aurait mis un frein.
C'était Les Tout Petits Bateaux, une rediffusion version courte des Petits Bateaux.